Pour prendre un petit peu d'avance dans l'épître aux Romains, je propose de regarder ensemble le début du chapitre 3. Il y a à ce stade-là de l'exposé de Paul, il veut répondre à des objections qui pourraient surgir qui pourraient venir à l'esprit de ces contradicteurs, de détracteurs par rapport à son enseignement sur tout ce qui a été vu précédemment sur la culpabilité de tous les hommes. Donc pour cela, je me suis aidé du commentaire de Brad Dixon et je vais vous faire la lecture du commentaire qui est assez facile à comprendre dans le cadre d'une lecture. Donc Paul écarte des objections qui mettent en question le droit que Dieu a de juger. Un auditeur avisé, Paul propose un dialogue avec ses lecteurs. Paul imagine, pas à pas, les réactions que peut susciter son enseignement. Comme il vient d'annoncer des paroles fortes, ébranlant sérieusement quelques idées reçues des Juifs sur le sujet de leur identité et de leurs privilèges, il prend ensuite le temps de soulever des questions et d'y répondre. Cette section comporte donc 4 ou 5 questions que Paul met dans la bouche d'un lecteur dubitatif. Il y répondra dans un style télégraphique, voire lapidaire, rendant parfois la compréhension de ce texte difficile pour nous qui sommes éloignés par 2000 millénaires et par de nombreuses barrières culturelles et religieuses. Mais la brièveté des réponses s'explique par le fait que Paul reprendra la plupart de ses discussions plus tard dans le livre, comme il sera indiqué dans le commentaire ci-dessous. Parfois, sa brusquerie s'explique par son indignation et par le manque de crédit qu'il accorde à certaines objections qu'il estime mal intentionnées. C'est Brad qui écrit. En essayant de lire entre les lignes, je me permettrai de paragrapher ces questions, objections et réponses. Première objection écartée. Quel est donc le privilège des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. Chapitre 3, versets 1 à 2. Première question. Paul. À vous entendre parler, on peut se demander s'il existe encore un quelconque avantage à être juif. Je croyais que c'était quand même un privilège et voici que vous n'accordez plus aucune importance à la circoncision. En quelque sorte, le reproche que Paul s'en prendrait au peuple de Dieu. Réponse 1. Vous vous trompez, cher ami, j'ai déjà affirmé que la circoncision était utile, à condition qu'elles soient accompagnées d'œuvres justes. Je suis moi-même fier d'être juif, et j'aime ce peuple passionnément. Chapitre 9, verset 3. Les juifs possèdent de très grands privilèges, dont l'un des plus considérables est le fait que Dieu s'est révélé à eux à travers Moïse et les prophètes. Ils sont les dépositaires de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout, au chapitre 9, je dresserai une liste assez longue des faveurs dont ils sont encore les bénéficiaires. Deuxième objection, chapitre 3, versets 3 à 4. Et quoi? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendrait-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certes non. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Donc l'accusation comme quoi Paul s'en prendrait aux promesses de Dieu. D'accord, question 2. D'accord, ils ont reçu des grâces particulières. Mais comme vous le dites vous-même, ils n'ont pas toujours répondu par l'obéissance et la fidélité à ce que Dieu les a appelés. Dieu n'a-t-il pas échoué dans son projet juif? Va-t-il donc les laisser tomber et briser ses promesses à leur égard? Réponse 2. Il n'en est rien. Ce que vous dites frôle le blasphème. Ceci est le sens du « certes non » que nous retrouvons à plusieurs fois dans l'Épître. Les échecs de l'infidélité de l'homme ne font que mettre en relief, la fidélité sans faille de Dieu. Comme le disent les psaumes, l'homme est un menteur, mais Dieu se montre toujours juste. Psaume 116, verset 11 et 51, verset 6. Dieu ne revient pas sur ses promesses à l'égard d'Israël, comme je le montrerai plus loin, chapitre 11, verset 29. Et il n'échoue jamais dans ses projets. Troisième objection. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Je parle à la manière des hommes. Certes non. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors là, on retrouve un petit peu l'idée qu'on retrouvait dans le jardin d'Éden, où Satan a accusé Dieu de vouloir cacher des choses à Adam et Ève, de pouvoir les priver de quelque chose qui serait bon pour eux et qui serait accessible par le fruit défendu. Question 3. La même question, ou presque, est répétée deux fois. Paul, selon vous, notre justice met en relief la justice de Dieu. Notre injustice, pardon, met en relief la justice de Dieu. On pourrait dire alors que Dieu tire profit de nous et de notre mal, et que par conséquent, il est injuste de sa part de juger ceux qui en tirent avantage. Ici, Paul s'excuse car il se sent mal à l'aise de gâcher du parchemin pour répondre à de tels raisonnements qu'il qualifie de « à la manière des hommes ». Puis Paul continue de résumer la question de ses lecteurs. Et si par mon mensonge je mets en évidence la vérité et la gloire de Dieu, ne me doit-il pas quelque chose? Je trouverai un jugement contre moi injustifiable dans de telles circonstances. Ça, donc, c'est la question et la réponse de Paul. Oh là là, vous allez loin dans votre insubordination. Insinuez-vous que Dieu ne serait pas qualifié pour juger le monde? Ce n'est pas parce qu'il sait, dans sa souveraineté, se glorifier même de notre péché, qu'il serait disqualifié pour le juger. Au contraire. Quatrième objection écartée. Comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, donc c'est le verset 8, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? La condamnation de ces gens est juste. Donc la question 4, puisque Dieu est élevé par notre bassesse, descendons encore plus bas afin que Dieu paraisse encore plus élevé. N'est-ce pas à cela que revient votre enseignement, Paul? La réponse 4. Cette question est si mal intentionnée qu'elle ne mérite même pas de réponse. Votre attitude est répréhensible à juste titre. Néanmoins, je m'expliquerai là-dessus plus tard. Chapitre 6, verset 1. On peut dire que par ces objections, l'interlocuteur de Paul s'enfonce davantage. Voilà, donc dimanche prochain, nous regarderons ce qui concerne la conclusion de Paul par rapport à la situation des hommes, du péché et de leur culpabilité devant Dieu. Merci de votre attention.